بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة شفاء الإسلام نغمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre ces cours de tafsir après donc cette période de vacances, alhamdulillah. C'est là une grâce, une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est le tawfiq min Allah, qu'Allah Rabbul Izzah choisit parmi ses serviteurs qui sont venus accomplir la salat, des personnes qui vont consacrer un peu de temps pour apprendre le ilm, pour apprendre la science religieuse. Et comme on le rappelle, et on ne finira jamais de le rappeler, la base même de la connaissance religieuse, c'est l'étude du Coran. Vient ensuite l'étude de Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce sont les hadiths. Et si on remonte la pendule de l'histoire du ilm, si on essaie de voir un petit peu les premières assemblées religieuses, ça nous ramène dans l'école Madrasa al-Arqam, Ibn al-Arqam, radiallahu anhu, à Makkah al-Mukarramah. C'était un jeune converti, un jeune reconverti, un jeune musulman qui avait donné sa maison au prophète alayhi salatu wassalam pour en faire une madrasa. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam recevait des versets de la part d'Allah azza wa jal, il réunissait les sahaba en cachette, parce qu'on est à Mecca. C'est une période difficile où la pratique de la religion n'est pas acceptée, elle n'est pas donc officielle, entre guillemets, n'est pas ouverte. Donc cet endroit était un refuge de ilm, où les gens se réunissaient pour écouter le wahi, pour écouter la parole d'Allah Azza wa Jal, pour écouter les révélations qu'Allah Rabbul Izza faisait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il demandait au prophète alayhi salatu wa sallam de propager et d'enseigner à l'ensemble des compagnons, à l'ensemble des sahaba. Donc, la base de la transmission du ilm, de la transmission de connaissances, quelqu'un pourrait dire à ces personnes de parler moins fort, Alhamdulillah. Donc la base de la transmission de la connaissance religieuse, c'est d'expliquer le Coran. C'est d'expliquer qu'est-ce qu'on lit dans la salat, d'expliquer qu'est-ce qu'on écoute dans la salat, d'expliquer ce Coran que, mashallah, nous nous empressons de lire quand arrive la période de Ramadan. Alhamdulillah, on enchaîne des khatm al-Quran, ou alors on se fixe presque comme un défi, un challenge pour que nos enfants lisent correctement le Coran, ou mieux encore, qu'un jour mon fils ou ma fille devienne hafiz al-Quran, qu'il mémorise le Coran. Ce sont là des objectifs qu'on se fixe, nobles objectifs, des challenges. On a l'impression qu'en faisant cela, alhamdulillah, ben on va gravir les échelons dans notre cheminement vers Allah Rabbul Izzah. Sans le moindre doute, ce sont là d'excellentes actions, mashallah. Mais n'oublions jamais que le Coran a été révélé pour être lu, pour être écouté, mais également pour être compris, étudié et surtout mettre en pratique. Pour revenir au Sourate An-Nazi'at qu'on avait commencé, il me semble, deux ou trois semaines, on avait fait deux séances ou trois séances avant les vacances, avant la trêve. Dans le premier couplet, on pourrait découper An-Nazi'at en différentes parties très distinctes. Depuis An-Nazi'at Gharqa, le verset 1, jusqu'au verset 5, il y a là une description des anges, différentes caractéristiques qui sont propres aux malaïka. Dans le premier verset, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, par ceux qui arrachent violemment, on fait un petit rappel rapidement, par ceux qui arrachent violemment, qui arrachent quoi? Qui arrachent les âmes, c'est-à-dire les anges qui vont prendre l'âme des kuffars, les anges qui vont reprendre l'âme de ceux qui meurent sans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ou des personnes, on pourrait même dire, qui meurent dans la désobéissance totale envers Allah Azza wa Jal. Et quelle a été l'adjectif choquant, un sourate qui démarre, qui commence directement par « wal-nazi'at », « naza'a », c'est tiré, arraché violemment. Donc le terme est très fort. Le terme est très fort, ça nous fait réaliser que Allahu Akbar, mourir sans la foi, ou mourir de la désobéissance d'Allah Rabbul Izza, ben les conséquences, on les voit soit dans ce monde, ou alors la personne peut vivre tout à fait normalement. Combien de personnes ont causé du tort à notre prophète alayhi salatu wassalam? Ils ont quitté ce monde comme si de rien n'était. Mais si ce n'est pas de la dunya, c'est tout de suite après. Le premier pas qu'on fait en dehors du périmètre de hayat dunya, de la vie de ce dunya, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre l'ange de la mort. On a un pied dans l'au-delà, mais encore un pied dans ce dunya. On est encore conscient, on fait partie encore des êtres vivants, mais on est en train de vivre al-gharghara, l'agonie, les derniers instants. Dès ce moment-là, lorsqu'on sort du périmètre de la vie normale, immédiatement la punition d'Allah Rabbul Izzah intervient. Ce n'est pas qu'on attend qu'un jour de Jahannam, ou après 10 ans, ou 20 ans, ou 10 millions d'années, Allah seul sait dans combien de temps aura lieu le Qiyam, et le Mahshal, la résurrection, et le jugement dernier, ça personne ne sait. Ce n'est pas qu'on attend là-haut, c'est au moment de mourir, la personne voit immédiatement la punition d'Allah Azza wa Jal. Et ça, ça nous fait réfléchir. N'oublions jamais que la justice d'Allah Rabbul Izzah, elle interviendra certainement dans l'au-delà. Donc, pour revenir aux nazi'at et gharqa, les personnes qui ont désobéi Allah Rabbul Izzah, les anges viennent et arrachent leur ruh, l'âme. Et l'âme quitte leur corps avec une douleur effroyable que l'ensemble de la création de ce dunya ne peut même pas imaginer. Ensuite, ça c'est tarhib, mise en garde, attention, vient le tarhib, vient l'apaisement du cœur dans wannash, tati, nashta, et par ceux qui recueillent avec douceur. C'est-à-dire les mêmes anges, ils reçoivent l'ordre d'Allah Azza wa Jal de reprendre l'âme d'autres personnes avec douceur. C'est le cas des croyants. Et à quel verset on a fait référence plus d'une fois? Un verset qu'on mémorise, on retient, la fin de Wal Fajr. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i. Déjà on parle de an-nafs al-mutma'inna, cette âme qui est tranquille, celui qui a été dans le droit chemin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. L'annonce, la bonne nouvelle pour le croyant dans ce dunya, qu'Allah est satisfait de cette personne, de ce croyant. Il reçoit la bonne nouvelle de ce monde. Et les anges vont prendre son ruh, son âme, avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Dans certains hadiths, il est décrit, il est mentionné que la vision de l'ange de la mort, pour le mu'min, pour l'homme pieux, qui voit Malik al-Maut se présenter à lui, devant lui, sous la plus belle des apparences, ça peut déjà être une récompense pour l'ensemble de ses œuvres de ce dunya. Tellement la vision de l'ange de la mort sous son aspect de rahma est une vision qui remplit les cœurs de joie. On avait vu ensuite rapidement et par ceux qui voguent librement. Et là on a eu l'occasion d'expliquer la force des anges. Que les anges c'est une race de créatures d'Allah Azza wa Jal qui est beaucoup plus fort que les djinns. Et que les djinns sont plus forts physiquement que les ins, que les êtres humains. On a vu l'histoire de la reine avec le prophète Souleymane alayhi salam, l'histoire du trône, comment cet ange avait une possibilité extraordinaire d'apporter ce trône d'une région à l'autre avant qu'il puisse cligner ou fermer les yeux et rouvrir les yeux. On continue. Fassabiqati sabqa. Puis s'élance à toute vitesse, on peut enchaîner avec fal mudabbirat et amra et règle les affaires. On a vu que les anges la ya'sun Allah ma amarahum. C'est une race qu'Allah Rabbul Izzah, ce sont des créatures qu'Allah a donc a créées pour faire son adoration et pour exécuter ses ordres, pour que la sunna d'Allah, l'organisation qu'Allah a prévue pour ce dunya, s'applique par l'intermédiaire de certains anges. On a vu la fonction de l'ange Jibril, qui s'appelle également Jibra'il. On a vu la fonction de Israfil alayhi salam, de Mikaïl. On avait vu celle de Malik al-Maut, l'ange de la mort. Celui qui est responsable de l'enfer, qui s'appelle Malik, qu'Allah nous protège. Ridwan, selon certaines sources, l'ange gardien du paradis s'appellerait Ridwan. Et on a vu également les anges Anil Yamin et Anil Shimal et Qa'id, ceux qui restent à droite et à gauche de chaque être humain pour noter mettre par écrit chaque parole, chaque action, bonne comme mauvaise, afin que ces écrits restent dans un livre. Et lorsque l'homme meurt, le livre est plié et on ne rajoute rien à ce livre, on n'enlève rien, sauf si quelqu'un avait des enfants pieux, sauf si quelqu'un a donné l'argent dans un waqf, comme on appelle ici waqf, ou en arabe sadaqa jariya, construction de mosquées, de médersa, de puits, ou don de Coran, et ainsi de suite, et qu'il peut continuer à avoir des récompenses. Autrement, ce livre reste scellé, et le jour de Qiyama, c'est ce livret-là qui est remis à chaque personne. Et dans certaines sources que je dois vérifier, donc l'authenticité, ça a été rapporté par le Muhasibi, rahimahullah, qui écrit pas mal d'ouvrages sur la description de l'au-delà. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il décrit, si je ne me trompe pas, c'était lui, mais il y a d'autres savants aussi qui parlent de cette étape où lorsque l'homme est ressuscité et qu'il reçoit son livret, il a auprès de lui ses deux anges qui étaient avec lui dans ce dunya. Au cas où c'était un homme pieux et qu'il voit donc les ahwal, les situations de l'au-delà, les anges le rassurent que, ô serviteur d'Allah, ce sont là des situations que vivent ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal et à son prophète. Mais toi, tu étais dans le droit chemin. Donc, il le rassure, il apaise. Alors que celui qui n'avait pas la foi ou celui qui vivait dans le péché, ses anges vont l'accabler. Dire, Anta adou Allah. Tu es un ennemi d'Allah. Et tout ce que tu es en train de voir, ben, tu vas les goûter bientôt. Et ça, c'est le tafsir d'un verset qui parle de la remise des livrets et des anges qui accompagnent la personne dans l'au-delà. Donc, Allah nous protège. Donc, on avait vu. Donc, fal mudabbirat et amra, comment est-ce que ces anges exécutent les ordres d'Allah Azza wa Jal? On a vu également, on a eu l'occasion de parler de la puissance de l'ange Jibril, de Mikaïl, de Israfil, qu'on avait parlé de l'ange Mikaïl, qui, subhanallah, apporte la subsistance de chaque être vivant, quelle que soit la race, la créature, ça peut être des oiseaux, des poissons, subhanallah, de l'infiniment grand, des grands mammifères, ou l'infiniment petit, des planctons, des microbes, des choses, des créatures qu'on ne voit pas, dont on ne connaît même pas l'existence. On a vu qu'il y a plus de 60% de la création d'Allah dont on ne connaît pas l'existence, insectes, mammifères ou oiseaux ou autre chose, qu'on n'arrête pas de découvrir. Mais Allah les a tous créés, et bien plus que ça, Allah les nourrit depuis leur création jusqu'à leur mort. On se rend compte de la puissance de cet ange qui amène la subsistance pour toutes ces créatures, mais au-delà de ça, la puissance de notre Seigneur qui a donné cette mission et cette compétence, ce pouvoir à cet ange. Mais malgré tout cela, Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin ni de Jibril, ni de Mikaïl, ni d'Israfil, ni même des... Là, ça pousse au plus loin la logique humaine pour nous mettre en porte-à-faux avec notre esprit cohérent, notre logique. Allah Azza wa Jalla n'a même pas besoin des anges qui portent son arche. Dans le Coran, il est écrit qu'en ce jour, il y aura 8 malaïka qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, mais Allah Rabbul Izzah n'a pas besoin d'eux. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est au-dessus de tout, qui n'a besoin de personne. Donc, en méditant sur la grandeur de la création d'Allah, ce qu'on observe, en étudiant la grandeur des créatures d'Allah dans l'au-delà, on finit par avoir une petite idée, une infime idée de la grandeur de notre Seigneur. Et ça, c'est, on va dire, c'est un cheminement qui est très important pour qu'on arrive à paramétrer notre niveau de concentration dans les sujouds, dans les prosternations, dans les ibadas. Comment est-ce qu'on arrive à se concentrer dans les bonnes œuvres? Comment est-ce qu'on arrive à être ferme face au péché si on ne connaît pas la grandeur de notre Seigneur, la force de notre Seigneur, tout ce qui se dégage de notre Seigneur Allah Rabbul Izzah? Et ça s'obtient en méditant la création d'Allah, en étudiant le Coran, ça s'obtient, on l'apprend également en étudiant les noms et les attributs d'Allah, les asma wa sifat. Donc là on est à une étape de wannazi'ati gharqa. La deuxième étape, c'est depuis le verset 6 jusqu'au verset 14. Yawma tarjufu ar-rajifa. Là on parle de la fin du monde et le passage vers l'autre monde. Yawma tarjufu ar-rajifa. Si je retrouve mes notes, bismillah. Puis c'est le verset 8, on a dit le verset 6, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon. Alors, ils l'ont traduit en français clairon. On avait vu que il s'agit du souffle de l'ange Israfil alayhi salam. Al-Nafra al-Oula, qu'on pourrait dire, le premier souffle de l'ange Israfil alayhi salam, avec ça, l'ensemble de la création d'Allah Azza wa Jal sera détruit. Et lorsque, enfin, c'est Rahman, on dit que lorsque Allah Rabbul Izzah révèle Yawma tarjufu ar-rajifa, ay, اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم. Ça c'est magnifique. Dans le commentaire de tafsir dit que lorsqu'Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa salam, le jour où la terre tremblera, ce qui veut dire rappelle-toi ô Muhammad, sois conscient ô Muhammad, le jour où la terre tremblera, c'est-à-dire lorsque ce dunya, lorsque ce monde prendra fin. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzah interpelle le prophète alayhi salatu wa salam, il interpelle, Allah Azza wa Jalla interpelle également chaque croyant. Quand notre prophète alayhi salatu wa salam reçoit l'ordre de la part d'Allah d'inviter, de sensibiliser, de propager, de communiquer qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Donc lorsque Allah Azza wa Jal dit au prophète, rappelle-toi lorsque la terre va trembler, c'est rappelle-toi et rappelle ta communauté. Udhkur ya Muhammad, ô Muhammad, sache que wadhakkirin nas, il fait le rappel également aux gens que viendra un jour où cette terre va trembler et il y aura le premier souffle dans nafratul oula, dans la trompe, et ce dunya sera entièrement détruit. Comme on a vu, on ne va pas revenir entièrement sur le tafsir. Il y a ensuite An-Nafra Thaniya, deuxième souffle, verset 7, immédiatement suivi du deuxième. Tatba'uha Ar-Radifa, immédiatement suivi du deuxième. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne Israfil alayhi salam de souffler une seconde fois dans la trompe, là, Allah Azza wa Jal va ordonner aux créatures de revenir progressivement à la vie. Et je pense qu'on avait expliqué par ordre quels sont les anges qui vont être ressuscités, ensuite les êtres humains, comment la résurrection aura lieu. فَإِنَّمَا هِيَ زَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. On est parti un petit peu loin. On revient, on va s'arrêter encore un petit peu avec les deux souffles de l'ange Israfil. À ce moment, il y a la description cette fois-ci de la situation, on va dire psychologique des gens. Lorsqu'il y a le deuxième souffle dans la trompe et que les gens, là on rejoindrait d'autres versets, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, les gens vont recevoir leur ruh, le corps vont être reconstitués, et lorsque l'âme pénètre dans les corps, ils redeviennent des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Et à ce moment, les gens vont se lever. Et il y a un autre verset, je ne me souviens plus dans quel chapitre, mais qui est magnifique, la façon dont les versets s'enchaînent. Fa'ida, déjà quand on parle de fa, c'est un enchaînement. Fa'ida hum qiyam, ils vont se lever, yandhurun, et voir. Voir quoi? Voir ahwal al-akhirah. Voir des choses qu'aucun œil ne pouvait même pas imaginer. Les situations, les étapes de l'au-delà. Étape que même notre prophète alayhi salatu wassalam de ce dunya, lorsqu'il était vivant, il ne pouvait pas voir. Il n'aurait pas supporté une telle vision. Lorsque on étudie les hadiths qui parlent du voyage nocturne, les savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam a subi une opération de la poitrine avant le voyage nocturne. Parmi les sagesses, selon certains ulama, c'est de lui donner la possibilité de voir ce qu'un être humain ne peut pas supporter normalement. La vision de l'au-delà est impossible, insurmontable pour un être vivant. Par l'opération de la poitrine, c'est-à-dire il y a eu quelque chose en rapport avec le monde de l'invisible qui est entré dans son cœur, par cela le prophète a pu voir l'au-delà, il a pu voir le paradis, il a pu voir l'enfer, autrement aucun œil ne peut supporter une telle vision. Donc là les gens vont être ressuscités et ils peuvent voir ce qui se passe. Maintenant lorsque les gens voient, qu'est-ce qui se passe de leur cœur? Le verset suivant, le verset 8 et 9, ce jour-là, on va dire directement en français, ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi et leurs regards se baisseront. Des cœurs qui sont agités d'effroi, et kha'ifa, khaufan shadida. Enfin, ils disent que la peur qui va s'installer dans le cœur de ces personnes qui soit n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal, ou alors qui ont délibérément vécu dans la désobéissance totale envers les ordres d'Allah Azza wa Jal, on pourrait dire que c'est aussi grave. Le fait de ne pas croire, c'est quelque chose, mais la personne qui croit, qui connaît l'existence de son Seigneur, qui connaît qu'un jour il retourne vers Allah, mais qui volontairement s'éloigne d'Allah, c'est quelqu'un qui emprunte un autre chemin, qui n'est pas le chemin du shirk, le kufr, mais c'est un chemin extrêmement grave, extrêmement lourd en conséquence. Donc première catégorie de personnes, on craint que ce soit la majorité, sachant que la majorité des êtres humains iront en enfer. 9/10 des êtres humains, ce hadith d'Adam alayhi salam, iront en enfer. Maintenant, qu'est-ce qui nous rassure? C'est de savoir que 9/10 de la race humaine, ce sont les Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dira à Adam alayhi salam de faire entrer dans l'enfer une grande partie de sa descendance, les sahaba ont eu peur. Mais, alhamdoulilah, qu'Allah nous protège de cette situation. Donc, une majorité de personnes seront dans ce cas de figure, qulub, yawma idhin wajifa, les cœurs remplis d'angoisse, de peur. Et là, ça mérite une petite pause. Se dire que ces mêmes personnes qui parfois de ce dunya faisaient preuve d'orgueil, de fierté, qui avaient eu l'argent, les biens, le pouvoir, la notoriété, qui étaient respectés, qui étaient considérés comme les visionnaires, comme les intellectuels, les gens qui sont au-dessus des autres, qui ont une ouverture d'esprit ou autre chose, mais ces personnes qui faisaient preuve de fierté, d'orgueil et qui avaient le cœur rempli de kufr et de nifar, d'hypocrisie et de mécréance, mais le jour de Qiyam, ce seront des cœurs remplis de crainte et remplis d'angoisse. Et ça nous ramène vers un hadith, si je ne me trompe pas, un hadith Qudsi, dans lequel Allah Azza wa Jal dit que celui qui vit de ce dunya, de ce monde, avec un cœur rafil, insouciant, qui n'éprouve jamais la crainte d'Allah, Allah Azza wa Jal lui garantit l'angoisse et la peur le jour de Qiyam. Alors que celui qui vit de ce dunya avec un cœur khashi', un cœur rempli d'humilité et un cœur qui pense à Allah Azza wa Jal, un cœur qui est habité par la crainte d'Allah, dit avant de dire n'importe quoi, je réfléchis, avant de faire quoi que ce soit, je réfléchis, avant de prendre une décision, je me demande est-ce que je suis dans le droit chemin, est-ce qu'Allah Rabbul Izzah est satisfait de ce choix, ou alors c'est un choix qui va à l'encontre de mes valeurs de musulman. Ben, cette personne qui en permanence évolue avec la crainte d'Allah, la crainte de se mettre dans une situation où Allah serait mécontent de lui, ben, cette personne, Allah Azza wa Jal, garantit la tranquillité du cœur le jour de Qiyam. Ce hadith, ça, c'est un hadith de base qui montre bien les deux catégories de personnes. Ceux qui vivent dans l'insouciance, ils ont la garantie d'être inquiétés dans le delà. Ceux qui vivent pas forcément angoissés, c'est pas qu'on a peur de tout, non. C'est ceux qui vivent avec la crainte d'Allah dans le cœur, qui développent leur taqwa, leur crainte d'Allah régulièrement, permanence, qui ne baissent jamais les bras, qui ne se disent pas que oui, il y a des moments où on s'accroche, c'est le mois de Ramadan, quand je vais au hajj, là je m'accroche, je suis un bon pratiquant, mais en dehors de ces périodes, c'est bon, je la coule douce, je prie quand je veux prier, je ne me fais pas de soucis si dans ma famille il y a des gens qui ne font pas leur salat ou autre chose. Mais ces personnes qui vivent dans l'insouciance, ces personnes, ils ont la garantie d'avoir la crainte d'Allah au jour de Qiyam. Alors que celui, je reviens, qui vit avec la crainte d'Allah, la pensée d'Allah en permanence, Allah Rabbul Izzah garantit à ces gens la tranquillité du cœur au jour de Qiyam. Il n'y a rien de mieux, il n'y a pas plus grand présent, il n'y a pas plus grand cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal que d'être parmi les aminin le jour de Qiyam. D'être parmi les gens qui sont rassurés. Parce que ce que les gens, les hommes vont voir le jour de Qiyam, comme on a dit, ce sont des choses qu'on ne peut quasiment pas décrire. Quand on parle de l'enfer qui est présenté à l'ensemble de la création et qu'on voit les textes qui décrivent même la crainte des prophètes lorsqu'ils vont voir l'enfer mis à part nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on se dit mais quelle sera notre situation le jour de Qiyam. Mais dans des situations aussi angoissantes, avoir la tranquillité promise par Allah Azza wa Jal, c'est vraiment une garantie qu'on sera parmi les gens tranquilles min al-aminin le jour de Qiyam. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit développer? La crainte d'Allah dans nos cœurs, que le cœur pense toujours à Allah Azza wa Jal et que l'homme réfléchisse avant de parler, avant d'agir, que chaque décision, comme je dis, je le répète, on n'avance pas, on ne fait pas un pas sans se demander si ce pas-là, il est dans le droit chemin ou il est dans le mauvais chemin. Ça fait partie des réactions basiques du croyant. Avant même de faire plein de choses, ça fait partie des réactions basiques du croyant, du mu'min. On s'en remet un petit coup à Ibn Kathir, rahimahullah, parce qu'il y a certains passages qui ont été zappés dans le livre qu'on suit. Et leur regard, oui, et leur regard se baisseront. C'était un regard, on va dire, je trouve le verset, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلِيهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ. On verra ces gens qui seront exposés à l'enfer, le regard rempli d'avilissement. Ces gens qui seront humiliés le jour de Qiyam et regarderont d'un œil furtif. Ils ne pourront même pas lever les yeux tellement ils seront humiliés en ce jour. Ce seront les gens qui n'auront pas eu la crainte d'Allah dans leur cœur. On va avancer avec Ibn Kathir. Absaruha khashi'a yaqulun « Parce que dans ce dunya, de ce monde, il osait dire, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première quand nous serons ossements pourris ?» Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il s'agit là des réactions des Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se basaient sur la logique.
et qui, au nom de cette logique, n'acceptaient pas les promesses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'acceptaient pas la transmission du Coran de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait deux facteurs. Il y avait le facteur orgueil, fierté. Ils ne voulaient pas perdre la place qui était la leur parmi les Arabes. Et deuxièmement, ils voulaient que toutes les choses soient cohérentes, logiques. Autrement, ils n'acceptaient pas. Donc, quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam annonçait au Quraysh, attention, viendra un moment, viendra un jour, vous allez mourir, ça ils acceptaient. Mais qu'après la mort, Allah va vous ressusciter à partir de la poussière issue de votre corps, Allah vous redonnera vie, là ils n'acceptaient pas. Et c'est exactement le raisonnement. Quoi serons-nous ramenés à notre vie première quand nous serons ossements pourris? Pour eux, quand on est mort, celui qui n'a pas de vie ne peut pas revenir à la vie. Celui qui n'a plus de vie ne peut pas retrouver l'âme. Scientifiquement également, c'est un cheminement correct. Le mort ne revient pas à la vie. Et les savants, en parenthèse, disent que très souvent on se persuade que c'est uniquement à notre époque que les gens se basent sur la logique pour refuser des textes religieux. Non, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui n'ont pas accepté son dîn, ils n'ont pas eu la guidée de la part d'Allah sans le moindre doute. Mais un des obstacles, c'était soit l'orgueil, la fierté, ou alors c'était le fait qu'ils ne voulaient pas courber face au texte d'Allah, ils voulaient se baser uniquement sur l'esprit cohérent. À nous de ne pas commettre la même erreur. Lorsqu'on explique, lorsqu'on parle de certains points de la religion, il y a des gens qui disent que mais ça c'est pas logique, ça scientifiquement c'est pas acceptable. Dans ce cas, on risque, wallah musta'an, de commettre les mêmes erreurs que les Quraysh qui se basaient sur la logique. Cette même logique, qui c'est qu'il a utilisé pour refuser les ordres d'Allah Azza wa Jal? Iblis, le grand patron, a'oudhu billah, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, parce que selon lui, il avait fait des études de chimie, le feu est supérieur à la terre. Je ne sais pas c'est quoi la formule du feu, F2, n'importe quoi. Et dit celui, F, c'est supérieur à T, la terre. Donc, ce n'est pas possible. Je suis supérieur, ma nature, elle est supérieure à sa nature. Au nom de quoi, il n'y a rien du tout. Il aurait dû accepter l'ordre d'Allah. Même si ça allait à l'encontre de la logique, ça allait peut-être à l'encontre de la logique des créatures d'Allah. Mais c'était là une épreuve. Et c'était là l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Iblis a refusé, il a utilisé sa logique, l'esprit cartésien, comme on dit. Et beaucoup de personnes, Allah Moussa, de nos jours, commettent les mêmes erreurs. On avance parce qu'on est en train de refaire les anciens tafsirs. On revient vers cette deuxième étape qui est l'au-delà. Là, on a parlé de premier souffle de la trompe, deuxième souffle de la trompe, les gens qui sont ressuscités qui voient, et les cœurs seront remplis d'angoisse. Et par opposition, ça c'est pas cité de le verset, mais les Moufassins disent que par opposition, ceux qui n'auront pas le cœur angoissé, comprenez que ce seront ceux qui auront les cœurs apaisés. Et qui seront les gens les plus apaisés le jour de Qiyam? Les sept catégories de personnes qui seront invitées sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama. Et ça, je vous invite à lire les textes, les hadiths qui décrivent ces sept catégories de personnes, leurs qualités, pour essayer de travailler ne serait-ce qu'une seule de ces qualités. Et tous ceux qui ont moins de 35 ans, levez le doigt, ceux qui ont moins de 35 ans, je pense que je peux laisser la main levée jusqu'à encore quelques jours. Après, je ne pourrai plus. Il y a une place en or à obtenir. C'est Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah. Parmi les gens qui auront une place sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, ceux qui auront passé leur jeunesse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on avait expliqué, c'était un autre endroit, c'était un Montreuil, que passer sa jeunesse dans l'adoration d'Allah, ça ne veut pas dire forcément rester dans une mosquée. Je reste dans la masjid, je ne sors jamais, je ne connais pas le monde extérieur. Non! L'islam n'invite pas vers l'ascétisme, pas vers al-rahbaniya de ce genre. Non! Notre dîn nous demande d'avoir une vie spirituelle, mais avoir une vie familiale, d'avoir une vie professionnelle. Parce que la meilleure subsistance, c'est ce que l'homme peut obtenir à la sueur de son front. Et c'était la sunna des anbiya, des prophètes, que de travailler pour gagner la subsistance. Le musulman ne tend pas la main. Par exemple, on dit que al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla, que la main qui donne est mieux que la main qui reçoit. Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khayr, que l'homme, le musulman qui est fort, est plus aimé par Allah que celui qui est faible. Mais il y a un khair dans les deux. C'est-à-dire que le dîn, notre dîn, c'est une religion complète, nous demande l'épanouissement spirituel, mais nous demande également l'épanouissement, le terme qu'ils aiment, l'intégration à la société, que chacun ait un travail et sa subsistance qui ne dépend de personne. Ça, c'est une religion cohérente. C'est une religion complète qui est adaptée à n'importe quelle époque, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu géographique. Mais c'est également un dîn qui demande, subhanallah, un équilibre entre tout ça. Et donc, Shabun Nasha'a fi ta'atillah, c'est quelqu'un qui vit normalement, qui a également une vie familiale. Lorsque trois jeunes étaient venus voir une des époux du Prophète sallam, et ils parlaient entre eux, le Prophète est arrivé, entendu leur conversation. Il y en a un qui dit que moi, je veux devenir le plus pieux, et pour arriver à ce degré de piété, je ne mange plus jamais. Je fais somme, je fais carême tous les jours, tout le temps. Il y en a un autre qui disait que moi, pour atteindre le plus haut degré de piété, j'ai fait l'intention de ne plus jamais dormir le soir. Passer toutes mes nuits dans le tahajjud, dans la prière de la nuit. Et l'autre qui a dit, et lui franchement il était balèze, dit que moi pour atteindre ce degré de piété, je vais rester célibataire toute ma vie. Jamais je vais me marier pour ne pas être détourné de l'adoration d'Allah. Le prophète était content, réponse A, mécontent, réponse B. A ou B? Attends, il y a des gens qui veulent se dépasser de la foi. Est-ce que le prophète est là pour dire aux gens, non, ne soyez pas trop pieux? Réponse A ou réponse B? Réponse B, t'es mécontent. Le prophète m'a dit, je suis le plus pieux parmi vous. Lui, il avait le droit de le dire. Je suis le plus pieux parmi vous. Pourtant, je suis marié. Le soir, je dors, mais je me réveille pour la prière de la nuit. Il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Et en concluant par la phrase, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Le prophète n'a pas dit ça pour des gens qui quittent la sunna, pour des gens qui en font mubalara, qui en font trop. Et qui oublie at-tawazun, le juste équilibre. Lorsqu'Abu Darda radiallahu anhu avait été fait frère mu'akhat avec un sahaba, personne n'avait vu qu'il ne s'occupait plus de son épouse du tout. Et la femme a dit que mais depuis que mon mari est dans le dîn, dans la religion, il ne s'approche plus de moi, il vit une vie d'ascète exactement. La nourriture ne l'intéresse plus, sa femme ne l'intéresse plus, il s'est coupé du monde réel. Et là, il fait la remarque, il dit sache que ton Rabb, ton Dieu, a un droit sur toi. C'est l'ibada. Sache que ton corps a un droit sur toi. Tu ne peux pas faire en sorte que tu ne dors pas ou tu ne manges pas tout le temps. C'est mauvais pour ta santé. Donc la santé, c'est la ni'ma qu'on doit garder. Et on aura des comptes. Sache que ta famille, ta famille a un droit sur toi. Ton épouse, tes enfants, ils ont besoin de toi. Tu dois répondre présent. Et tu ne dois pas être dans la mosquée du matin au soir. Soit dans la mosquée, soit près de ton épouse, soit près de ta famille aussi. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّ. Donne à chacun son droit. Ça c'est التوازن. Ça c'est une religion الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Une religion qui est complète, qui est parfaite. C'est la religion du juste milieu. C'est pas la religion qui oppose les enfants aux parents. C'est pas la religion qui oppose l'époux à l'épouse parce qu'il y a un qui veut pratiquer, l'autre qui veut pas pratiquer. Non, ce dîn permet à chacun de trouver sa place spirituellement, sur le plan familial, sur le plan professionnel, tout en restant dans les limites des ordres d'Allah. Donc le jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, c'est pas celui qui s'attache à un poteau de la mosquée depuis l'âge de 12 ans jusqu'à la mort, il est mort sec comme un... Non, c'est celui qui vit, qui fait ses études, qui réussit, qui avance, mashallah, qui travaille, mais qui baisse son regard, qui n'écoute pas ce qui est haram, qui ne mange pas ce qui est haram, qui ne touche pas ce qui est haram, qui ne rate pas ses salats, qui a le respect pour ses al-walidain et pour ses parents. Celui qui a le cœur qui est toujours dans le dhikrullah, la langue toujours trempée dans le dhikrullah, et qui sait prendre les bonnes décisions en respectant les ordres d'Allah. Et qui ne s'écartera jamais du droit chemin. Shabun nasha'a fi ta'atillah. Et qui travaille son ilm, la connaissance, qui travaille la taqwa, qui assiste aux assemblées religieuses, et qui veut se rapprocher d'Allah, yawm ba'da yawm, jour après jour. Et qui n'a qu'un seul souhait, mourir quand Allah est satisfait de lui. Donc pour les jeunes, selon certains savants, c'est 40, d'autres c'est 35, d'autres sont un peu plus agaçants, ils disent 25 ans, d'accord? Donc là, ça ferme beaucoup de portes. Ceux qui sont encore jeunes, ça c'est une place de choix à obtenir sous l'ombre du trône d'Allah. Celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, il y a quelque chose qui le fait peur. Il est abrité par le arche d'Allah Azza wa Jal. Le jeune qui aura grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde cette place et l'accorde à nos enfants. Allahumma amin. Donc on revient, on s'éloigne, mais on essaie de revenir par opposition à ceux qui auront les cœurs apaisés. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Ça, ça rejoint notre verset. In kanat illa sayhatan wahida. Vous mémorisez ça. Fa'idha hum jami'un ladayna muhdaroun. Un souffle, c'est lorsque Israfil va souffler de la trompe, il y aura une annonce que tout le monde sera réuni et prêt à répondre, prêt à se rendre auprès d'Allah Azza wa Jal. Le verset de Surat Yasin est magnifique. Fa'idha hum jami'un ladayna muhdaroun. Ils seront tous, muhdaroun, comment on pourrait traduire, présents auprès de nous. Une annonce. Il y aura une annonce dans Surat Shu'ara, si je ne me trompe pas, à la fin, on parle de cette annonce où les gens auront l'ordre de se réunir pour le grand rassemblement pour répondre de leurs actions. Le début des contes dit que فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَ. On n'entendra que le bruit des pieds des gens qui vont aller vers l'endroit pour être réunis et personne n'osera parler, personne n'osera discuter tellement les gens seront angoissés par la situation de l'au-delà. Donc il y aura cette annonce, فَيْدَاهُمْ جَمِيعٌ. Ils seront tous لَدَيْنَا auprès de nous, مَحْضَرُون. Les ulama disent, quand on lit ce genre de verset, qu'on essaie de comprendre le sens de ce Yassine qu'on lit tous les matins, on doit réaliser que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, ils seront tous auprès de nous, réunis, présents, mais je fais partie de ces tous, quand on dit jami'a, je fais partie de ces gens. Parce qu'on parle de l'ensemble de la création d'Allah Azza wa Jal, je serai appelé parmi toutes ces personnes, ladayna, auprès d'Allah. Je serai appelé également auprès d'Allah. Il dit, ça c'est le rendez-vous de ta vie. Ya akhi, mon frère en islam ou ma soeur en islam, n'oublie jamais que le rendez-vous de ta vie, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal t'appelle auprès de lui, seul pour répondre de tes actions, pour répondre de ta vie. Lorsqu'il y aura cette étape où l'homme se présentera seul devant Allah, pour répondre de l'ensemble de ses paroles, de ses faits et gestes, de sa vie, ça c'est ton rendez-vous auprès d'Allah. Ça c'est le but, c'est l'aboutissement de ta vie. L'aboutissement d'une vie, mes chers frères en islam, c'est pas l'obtention d'un diplôme. L'aboutissement d'une vie, c'est pas le mariage avec telle personne dont je rêvais depuis 15 ans, 20 ans. L'aboutissement d'une vie, ce n'est pas devenir riche. Ce n'est pas obtenir, avoir telle chose, là ou Allah. L'aboutissement d'une vie, c'est quoi? C'est lorsqu'on est appelé auprès d'Allah, auprès du tribunal d'Allah, Azza wa Jal, que ce moment-là se passe bien. Et qu'on reçoit le livret de compte avant cela dans la main droite. C'est là qu'on peut être fier. Être fier, c'est pas qu'on a gagné quelque chose de ce dunya, c'est pas qu'on a obtenu, qu'on a réussi, qu'on a là wallah. C'est pas qu'un objectif est atteint, non. Quand est-ce qu'on peut être fier? On peut être heureux, épanoui réellement, c'est lorsqu'on reçoit le livret de compte de la main droite. C'est pour ça que le Coran bien dit que celui qui reçoit le livret de compte de la main droite, il va appeler, le verset ne me revient pas, il va appeler les gens pour dire ha umqra'u kitabiya, venez voir, venez lire mon livre. Ça c'est al-fawz. Ça, c'est le succès. Recevoir son livret de compte de la main droite, ça, c'est la garantie que maintenant le Jannah est à portée. Demain, le Jannah est promis à cette personne. Allahumma ja'alna minhum. Pour revenir à ce verset, il ne suffit, on parlait d'une sommation, il n'y aura qu'une sommation, un appel, et voilà qu'ils seront tous sur la terre ressuscités. Les ulama disent que tous ces, les anges seront là, les êtres humains, les djinns, même les animaux. En une fraction de seconde, dit ce verset, nous prouve, et subhanallah, on le savait, la puissance, la force d'Allah Azza wa Jal. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ordonne. Qui de ce dunya est capable en 3 secondes de rassembler dans un endroit, allez, on va dire 100 000 personnes? Impossible. Qui parlent des langues différentes, qui sont dans des endroits différents? Impossible. Allah Azza wa Jal, en une fraction de seconde, ressuscite et réunit l'ensemble de la création parce que c'est le grand rendez-vous avec notre Créateur, le grand rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et on commentait également, on commentait mais un peu plus approfondi. Les savants disent que quand on voyait la qudrat d'Allah, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, qui est capable de ressusciter l'ensemble de sa création en une fraction de seconde, et qu'ils retrouvent leur apparence comme de ce dunya, même ils sont morts depuis 10 000 ans, 15 000 ans, qu'on voit la puissance d'Allah Azza wa Jal, que chaque croyant réalise la puissance de son Seigneur et regarde les problèmes qui l'envahissent, les problèmes qui sont devant ses yeux. Et il se dit que Allah est tellement fort et tellement puissant que sans le moindre doute, si je l'invoque sincèrement, avec conviction, mais avec ilm, et on verra l'importance du ilm pour le yaqin, avec la connaissance de notre Seigneur, de la force de notre Seigneur, sans le moindre doute, Allah Rabbul Izza est capable d'enlever l'intégralité des problèmes. Que ce soit un problème de santé, quelle que soit la nature des problèmes, ne jamais douter de la force d'Allah Azza wa Jal. La puissance de notre Seigneur, on le voit le jour de Qiyamah, mais cette puissance-là, Allah Rabbul Izza, il peut nous aider par sa force. Quelle que soit la gravité, la lourdeur, la difficulté que nous vivons, quelle que soit la nature des problèmes, Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. On doit être persuadé qu'Allah est capable d'enlever l'intégralité, l'ensemble des difficultés qui sont devant nous, uniquement par un ordre, mais à condition qu'on sache comment l'invoquer et avec quelle sincérité on doit invoquer Allah Azza wa Jal. Vient ensuite les versets 15 à 26 concernant l'histoire de Moussa alayhi salam. Hal atak hadith Moussa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? C'est adressé à qui? T'est-il parvenu à celui qui reçoit la révélation, Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui lui reçoit l'ordre cette fois-ci de transmettre. Donc, le message concerne tous ceux qui ont lu ya ayyuhalladhina amanu, tous ceux qui ont la foi, c'est-à-dire nous tous, mashallah. Lorsqu'Allah azza wa jal rappelle le prophète alayhi salatu wa sallam l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est très souvent pour apaiser le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rassurer notre prophète alayhi salatu wa sallam qu'avant lui, il y a eu des prophètes parmi les grands, ulul azmi min ar-rusul, parmi les cinq grands prophètes d'Allah azza wa jal, malgré l'honneur qu'Allah leur avait accordé, et en plus Moussa qui a eu quelque chose qu'aucun prophète n'a eu, il était surnommé Kalimullah, celui qui a conversé dans ce monde, qui a parlé avec Allah Azza wa Jal plus d'une fois. Malgré ça, il a été insulté. Il a été traité de fou, de sorcier. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Beaucoup de gens l'ont maltraité. C'est donc, on appelle en arabe, tasliya, un encouragement pour le prophète alayhi salatu wa salam. Mais également un encouragement pour l'ensemble des croyants. Ne jamais douter. Ne jamais juger le degré de véracité de ce que nous croyons, de ce que nous pratiquons par rapport au regard et à la réaction des gens. Parce qu'il y a des gens avant vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, Moussa alayhi wa sallam, qui étaient dans le droit chemin, qui étaient dans le haqq, c'était des prophètes d'Allah, mais ils étaient décriés par quasiment l'intégralité des gens qui étaient autour d'eux. Mais malgré ça, ils savaient qu'ils étaient dans le droit chemin, dans le haqq, ils sont restés dans le haqq, et ils ont eu l'aide d'Allah azza wa jal. C'est un message pour l'ensemble des croyants. Quelle que soit la situation, quelles que soient les critiques des gens, nous savons que nous avons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans notre cœur, nous sommes dans le droit chemin et on se tient à kalimat al-tawhid et on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Car Moussa alayhi salam a souffert pour propager le tawhid, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu mille et une souffrances. Un des prophètes qui a connu le plus de souffrances avec son peuple, c'était le prophète alayhi salatu wa sallam à Uhud, avec les Banu Thaqif, à Taif, trahison des hypocrites, des munafiqines, et ainsi de suite. Malgré ça, ils sont restés fermes dans le droit chemin. Vous avez expliqué l'importance, je pense qu'on avait déjà dit ça avant, l'importance des qasas, al-Qur'an, des histoires qu'il y a de le Qur'an, et principalement l'histoire des prophètes. Et ce qui est magnifique avec l'histoire des prophètes, alayhim salat wa salam, c'est qu'on peut facilement s'identifier à l'histoire d'un prophète. Les prophètes, alayhim salat wa salam, étaient les gens les plus aimés par Allah, et donc les gens les plus, barakallah, les plus éprouvés. Vous dites que oui, attends, mais c'est pas logique. S'ils étaient aimés, ils étaient les plus comblés. Non. Parce que lorsqu'Allah aime quelqu'un, Allah va le tester, va l'éprouver. Les gens les plus, achadu nas ibalan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Quand Allah aime une personne, Allah l'éprouve. C'est pour ça que les prophètes étaient les plus éprouvés. Et chaque prophète a connu une épreuve de nature différente. Certains ont connu des trahisons, certains ont connu des souffrances, certains ont été éprouvés par la perte des proches, ainsi de suite, par des maladies. Chacun peut, subhanallah, vivre à travers l'histoire d'un prophète, s'identifier à une histoire qui a été révélée il y a, subhanallah, 15 siècles, et révélée dans le Lawh al-Mahfouz avant même, Allah seul sait maintenant ça fait combien de temps, et trouver une solution à ces problèmes immédiatement en 2015, en 2016, en 2040, en 2050, subhanallah. Ça fait partie des miracles du Coran. Celui qui, par exemple, prendre un exemple, qui souffre physiquement, problème de santé, il va s'identifier à Ayyub alayhi salam, qui a vécu 18 ans malade, mais une maladie, on ne peut même pas imaginer, avec des plaies, des vers qui sortaient, que les gens l'isolaient, ils ne voulaient même plus le voir, même sa femme, les gens ne voulaient plus fréquenter, ils ne voulaient même plus qu'elle travaille, craignant qu'elle soit contagieuse. Vraiment une situation terrible. Mais après 18 années de patience, de sobre, Allah Rabbi Izzah lui a accordé la santé et encore plus de bienfaits qu'il avait. Donc c'est ibra, c'est une leçon pour l'ensemble de la Oumma, l'ensemble des croyants. C'est pour ça que je vous invite à lire l'histoire des Anbiya, lisez l'histoire des prophètes, c'est vraiment quelque chose qui remplit les cœurs de joie. Donc, hal ataka hadith Moussa. Moussa donc faisait partie des grands prophètes avec Ibrahim, Moussa, Issa, Nuh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des histoires les plus racontées de le Coran également par rapport à l'impact et les nombreuses leçons qu'il y a à travers l'histoire de Moussa alayhi wa sallam. Hal ataka hadith Moussa, idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi Touwa, quand son Seigneur l'appela dans Touwa, la vallée sanctifiée. Voilà, je pense qu'on va commencer un chapitre, parce que là c'est du verset, subhanallah, hal ataka hadith Moussa, du verset 15 jusqu'au verset 25, lorsqu'Allah Rabbul Izzah va détruire Pharaon. Je pense que 10 versets, on a fait déjà 50 minutes, il faut vraiment consacrer du temps à le passage de l'histoire de Moussa alayhi salam dans la sourate An-Nazi'at. Et je pense qu'Inch'Allah, on va essayer de développer la prochaine fois. Et subhanallah, l'histoire de Moussa alayhi salam est racontée dans différents passages. Ça s'appelle Surat Taha, ça peut être la Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, Surat Al-Qasas. Et là, dans Surat Al-Nazi'at, il y a quelques passages, mais ces quelques passages véhiculent un message pour notre prophète alayhi salatu wa salam, pour l'ensemble de la Ummah. Et le message principal qui est véhiculé, c'est Kufr wa Turyan de Pharaon. L'orgueil, la fierté, la désobéissance de Pharaon, malgré les chances qu'Allah lui avait accordées. Lorsqu'Allah Rabbul Izzah va à Moussa Al-Sam dit Faqul hallaka ila an tazakka, traduction, voudrais-tu te purifier, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Ça, c'est un grand message d'espoir. Pourquoi c'est un grand message d'espoir? Parce qu'Allah Azza wa Jal envoie Moussa alayhi salam vers le seul homme qui a osé dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur, qui a osé proclamer Rububiyya, la création, la seigneurie de toutes choses, ce que personne n'avait dit avant lui. Malgré ça, Allah Azza wa Jal a pitié de cette personne et envoie Moussa alayhi salam voir cette personne, dire que tu veux te purifier de ce péché, tu veux que je te montre le chemin pour te ramener vers ton Seigneur et obtenir son contentement. Ça, c'est la rahmat d'Allah à l'attention de l'ensemble de ses créatures. Et quand Allah demande à Moussa alayhi salam d'aller voir Pharaon, c'est de quelle façon est-ce qu'il doit s'adresser à Pharaon? Faqula lahu qawla layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha, que dites, il y avait Haroun avec lui, dites-lui des paroles douces afin que, en ce sens, ça touche son cœur et que peut-être qu'il va se souvenir. C'est-à-dire, malgré la gravité de ce qu'il avait osé affirmer, malgré la gravité de ses péchés, c'est la pire des choses, le shirk, le kufr, malgré ça, Allah Rabbul Izzah demande à Moussa alayhi salam de parler avec délicatesse. Et nous, parfois, quand on a besoin de dire quelque chose à une personne concernant la religion, Allah musta'an, le discours, la façon dont on parle, on va offenser la personne, on va faire des remarques, ou parfois juste un regard. Tu regardes la personne, tu le dévisages de la tête aux pieds, tu l'as scanné, là, il a compris que tu es out, il a compris que tu le considères comme bon à rien. Spirituellement, tu ne vaux strictement rien. On peut déchirer, on peut casser le cœur d'une personne par un regard, par une parole, alors que Moussa alayhi salam, Allah Rabbul Izzah lui révèle d'aller voir Pharaon et de lui parler de façon correcte, respectueuse, afin qu'il revienne vers Allah et de lui proposer, de lui donner la possibilité de retourner vers Allah Azza wa Jalla. En commenté, on verra la prochaine fois, les savants disent qui c'est qui a commis des péchés plus graves que Pharaon. Personne, jusqu'à la fin des temps, ne commettra des péchés aussi graves que Pharaon. Malgré ça, Allah Azza wa Jalla lui a donné la possibilité de se racheter, de revenir vers le droit chemin. Grand message d'espoir. On verra que dans cette, ça c'est une expression française, cette perche qui lui a été tendue, la possibilité de revenir vers Allah, lui, il n'a pas voulu saisir cette occasion. Il a vu à maintes et maintes reprises les signes d'Allah, mais il n'a pas voulu, par fierté, par orgueil. Alors que d'autres qui avaient commis d'autres crimes, les sorciers de Pharaon, ils ont vu un signe d'Allah, ils se sont prosternés et dit « Nous croyons en Allah, nous croyons au Seigneur de Moussa. » Et Pharaon dit que « Je vais vous crucifier, vous trancher jambes et pieds, vous crucifier. » Ils ont dit que « Faqdi ma antaqad, fais ce que tu veux, juge, tu ne seras que le juge de ce monde. Nous nous en remettons au Seigneur des mondes. » Wallahi, degré de iman. C'est des points magnifiques qu'on va essayer, Inch'Allah, de développer la prochaine fois. Dans la sourate An-Nazi'at, qu'Allah Azza wa Jal donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, que la réalité de ces paroles pénètre nos cœurs et qu'Allah nous donne la possibilité de les mettre en pratique et que nos vies changent et s'améliorent par le contact avec le Coran. Inch'Allah, on va être régulier. Fait doua qu'Allah nous istiqama tous les vendredis, Inch'Allah. On essaie d'être présent, on ne s'absente pas et qu'Allah nous accepte. Et qu'Allah récompense également nos frères qui sont responsables de la masjid, qui nous attendent jusqu'à 22h pour la fermeture. Qu'Allah leur accorde l'équivalent de la récompense de chaque personne présente dans cette assemblée. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.